petite promenade sur le chemin de l'école. Bonsoir Arthur.
Bonsoir.
Et du coup, tu nous parles des universités britanniques, la conquête du monde.
Oui, tout à fait. Alors, qui connaît Johor Bahru, cette surprenante ville malaisienne de 800 000 habitants en pleine expansion? Eh bien, la capitale de l'état de Johor n'en finit plus d'étonner ses voisins. Et pour cause, elle peut se targuer d'accueillir une université britannique. Le campus EduCity, donnant sur l'un des principaux axes de la ville, non loin du parc d'attractions Legoland, abrite trois établissements britanniques à 5 minutes de marche les uns des autres. L'université de Reading, un écrin de verdure qui brille au soleil, celle de Newcastle, une reproduction de l'établissement de Tyneside dans le nord-est de l'Angleterre, et celle de Southampton qui complète l'improbable trio. Alors, ces cas sont de moins en moins rares et s'inscrivent dans une tendance générale, indique le journal The Economist. Les universités britanniques ont ouvert 39 campus à l'étranger, dont le Middlesex University Mauritius, sur l'île Maurice, et le Glasgow Caledonian University au Bangladesh, où sont inscrits quelques 26 000 étudiants. Seule l'Australie, dont le nombre d'universités est plus réduit, peut se targuer d'un rapport similaire entre les campus situés sur son territoire et à l'étranger. Alors, on dénombre aussi un plus grand nombre d'étudiants inscrits dans l'établissement étranger délivrant des diplômes britanniques. Moyennant des droits élevés, des universités britanniques fournissent le programme d'études, voire les enseignants, les formations et le soutien individuel nécessaire. En 2015-2016, quelques 703 000 étudiants ont suivi un corpus universitaire britannique à l'étranger. Alors, lorsqu'on y ajoute les étrangers qui font leurs études en Grande-Bretagne, le nombre total d'étudiants étrangers inscrits dans des universités britanniques cette année-là a atteint 1,1 million, un chiffre qui est en train de rattraper rapidement les 1,9 million d'étudiants britanniques. Alors, cette implantation des universités à l'étranger a commencé à s'intensifier dans les années 2000, en réponse aux demandes des pays en développement, surtout d'Asie. Comme dans tous les secteurs, les établissements ont tâté le terrain avant de franchir le pas, observe un professeur de la Business School de Nottingham. Alors, les universités de premier rang ont été les premières à ouvrir des campus dans l'espoir d'attirer un meilleur personnel enseignant et davantage d'étudiants afin de progresser dans les classements internationaux. Dans les premiers temps, c'était les universités de second rang qui laissaient volontiers des établissements locaux enseigner leurs programmes. Mais des universités plus prestigieuses leur ont peu à peu emboîté le pas. Aujourd'hui, c'est tout le système qui chante les louanges du développement des liens universitaires internationaux et dans certains cas, ils n'ont probablement pas tort.
Et l'intérêt pour les étudiants semble en effet évident. On peut penser qu'un diplôme britannique est une promesse de qualité.
Et oui, le nombre d'étudiants malaisiens a fortement augmenté ces dernières années à la Sunway University, un établissement situé en périphérie de Kuala Lumpur. Alors, en faisant leurs études dans leur pays, les étudiants malaisiens n'ont pas à faire la demande d'un visa britannique de plus en plus difficile à obtenir. Et cela leur revient beaucoup moins cher. Les frais de scolarité à l'université anglo-malaisienne Lancaster Sunway sont de l'ordre de 5 900 euros par an, alors qu'à l'université britannique de Lancaster, ils atteignent les 10 480 euros, auxquels il faut encore ajouter les frais de déplacement importants et un coût de la vie très élevé. Au cours des 5 dernières années, le nombre d'étudiants inscrits à la Sunway University a triplé pour atteindre le chiffre de 7 500. Selon son vice-président Graham Wilkinson, le fait qu'elle délivre des diplômes britanniques a été déterminant dans cette augmentation, même si la proximité d'un parc aquatique n'y a sans doute pas été totalement étrangère. Alors, classe touriste pour tout le monde en Malaisie, me direz-vous ? Eh bien non. Pour des pays comme la Malaisie, l'implantation d'établissements étrangers a contribué à un développement rapide de l'excellence universitaire. Il y a une vingtaine d'années, la Malaisie a commencé à se positionner comme un pôle d'enseignement supérieur en cherchant à attirer des étudiants de toute la région et de pays musulmans plus lointains, explique Sarah Devral, la directrice de la branche malaisienne du British Council, qui a pour mission de promouvoir la culture britannique à l'étranger. Alors, la Malaisie compte aujourd'hui davantage d'étudiants préparant un diplôme britannique que n'importe quel pays, hormis la Grande-Bretagne elle-même quand même. D'autres pays ont cherché à attirer des universités pour d'autres raisons. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, Dubaï les a encouragés à ouvrir des centres pour s'occuper des enfants de ces nombreux expatriés. Alors, malgré le soutien gouvernemental des pays hôtes, il n'est pas facile de coopérer avec les établissements d'enseignement supérieur étrangers. Sam Weston, qui travaille dans l'université de Reading, sur le campus d'EduCity à Johor Bahru, reconnaît que le recrutement a été plus lent que prévu. C'est le début, explique-t-elle, on doit encore se faire connaître. Des universités britanniques ont fermé leur campus sur l'île Maurice car elles n'avaient pas réussi à attirer suffisamment d'étudiants. L'an dernier, celle de Warwick a renoncé à ouvrir un campus en Californie face à la complexité des réglementations locales. D'autres, ayant trop misé sur l'enthousiasme de certains responsables d'universités en Grande-Bretagne, ont rencontré des difficultés quand ces derniers se sont désintéressés de leur projet. Les universités doivent également s'adapter, parfois à leurs dépens, à la politique locale. En juillet dernier, un universitaire a été exclu du conseil d'administration de l'université de Nottingham à Ningbo, un partenariat avec l'État chinois, après avoir écrit un texte critique sur le 19e congrès du Parti communiste chinois. Les syndicats étudiants n'ont pas non plus droit de cité dans les campus britanniques de Malaisie. Toutes ces difficultés expliquent pourquoi la plupart des universités britanniques qui délivrent leurs diplômes à l'étranger préfèrent faire appel à un établissement local pour dispenser leurs cours.
Ce manque d'implication qui n'est du coup pas sans poser quelques problèmes cette fois-ci. La qualité de l'enseignement est-elle donc toujours à la hauteur ?
Selon la Quality Assurance Agency for Education, un organe indépendant qui contrôle la qualité de l'enseignement des universités britanniques, y compris d'outre-mer, les défaillances sont rares. Mais en privé, certains responsables d'universités doutent que le niveau soit toujours égal à celui des établissements de Grande-Bretagne, comme il est censé l'être. Face à ces réactions, les universités se montrent plus prudentes. Selon Jeannette Ilieva, consultante en enseignement supérieur basée en Grande-Bretagne, beaucoup se détournent du modèle non-interventionniste, qui consiste à délivrer des diplômes sans s'occuper du reste, pour s'orienter vers de véritables partenariats. Les gouvernements deviennent eux aussi plus circonspects. Il y a 2 ans, la Malaisie a interdit les associations avec des universités ne figurant pas parmi les établissements les mieux classés du monde. De son côté, la Chine aurait, dit-on, cessé d'approuver de nouvelles ouvertures de campus en partenariat. Les universités elles-mêmes hésitent de plus en plus à se lancer dans des opérations risquant d'affaiblir leur caractère britannique. L'an dernier, l'augmentation du nombre d'étudiants préparant un diplôme britannique à l'étranger a marqué le pas pour s'établir à 1%. Mais selon les responsables d'université, cette tendance ne va pas durer. Certains établissements britanniques envisagent d'ouvrir des campus en Europe après le Brexit en vue de contourner les restrictions sur l'immigration. Le fléchissement imminent de la courbe démographique des Britanniques de moins de 18 ans et les menaces des politiciens de réduire les droits d'inscription en Grande-Bretagne poussent également les universités à se tourner vers l'étranger. Avec les demandes croissantes de diplômes venant du monde entier, nul doute que leur tendance à l'internationalisation va se renforcer.
Merci beaucoup Arthur pour cette chronique sur un système effectivement dont j'avais pas connaissance
avant de faire plein de recherches sur ça.
Et j'avoue que c'est à la fois assez intéressant et effectivement relativement problématique. Et c'est là-dessus que nous nous quitterons ce soir. Et à 21h27, c'était donc le journal radiophonique amplifié sur Transistor avec cette semaine Marie Douniac, Arthur Kramer, Mathilde Picard, Maë Burla, Maxime Seguin, Benoît Auclair, Arthur Guérin-Turc en régie. On remercie évidemment l'inestimable Félix Barancy. L'Amplifié, c'est une émission coordonnée par Rémi Cerda qui vous donne rendez-vous pour sa prochaine diffusion le 7 février sur les ondes de Transistor. Et puis d'ici là, retrouvez bien sûr toutes nos émissions chaque mercredi sur www.transistor.fr. À très bientôt sur Transistor.